Alors, une question de Jean-Pascal. Pourrais-tu nous parler des individus sans âme ou portails organiques qui sont nos prédateurs? Sont-ils dépourvus de corps émotionnel? Quand on dit sans âme, c'est qu'ils n'ont pas de corps émotionnel, car l'âme et le corps émotionnel sont la même chose. On va dire que l'âme, c'est le bouquin de toutes les émotions, on va dire, bloquées, refoulées. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Puisqu'ils n'ont pas d'âme, véritablement, donc de corps émotionnel, eh bien, ils viennent de trucider 5 personnes et ils vont recommencer demain. Parce que eux, ça les dérange pas. Ils sont pas embêtés avec ça. Voilà pourquoi ces aveuglements, ils sont aveuglants, parce que c'est quoi le problème? Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous prenez un chasseur. Il a un fusil, il tire, il flingue, il dit, oh là là là, tiens, il y a des lapins, papa. Et puis, même s'il doit balancer les lapins sur le tas de fumier parce qu'il sait plus quoi en foutre, c'est pas grave, il va continuer à tirer pour le plaisir de dire, mais moi, j'aime tirer sur les lapins. Et tant qu'il a des cartouches, il va le faire. Voilà. Donc ça, c'est un individu sans âme. Alors. Une question de Vincent. Se peut-il que l'on devienne les gens en étant à proximité d'eux, en vivant leurs émotions états mentaux? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, bon, ça s'appelle l'empathie. C'est-à-dire que, grosso modo, quand tu augmentes ta fréquence, eh bien, l'autre personne qui vient dans ton aura, entre guillemets, eh bien, elle est complètement, dans ta bulle. Et comme elle est dans ta bulle, tu peux savoir tout et ressentir ce qu'est la personne. Donc, tu deviens la personne. Tu sais tout ce qui se passe. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de, on va dire, de basique pour ceux qui sont déjà dans la vibration depuis un certain temps. Donc pas besoin de regarder un CV pour savoir que quelqu'un il va t'entuber ou pas au niveau du boulot. Tu le sais déjà, même avant de regarder le CV, tu vois la personne, tu dis, oh, ça y est, je sais, c'est bon. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et tous les collègues associés que j'ai eus qui ont essayé de me dire, mais t'as vu, regarde, il est bon, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, maintenant on va l'embaucher, le truc, le machin. J'ai dit, ok, on fait l'expérience. Tu connais mon point de vue. Et 100% raison à tous les coups. Donc, à la fin, eh bien, le dernier associé que j'avais, il me faisait une confiance absolue à ce niveau-là. Parce qu'il avait vérifié par lui-même que tout ce que je lui avais dit était vrai. C'est-à-dire, je disais, tiens, celle-là, oui, elle est mignonne, elle présente bien, tout, etc., mais ça ne va pas jouer. Non, je ne savais pas où ça allait déconner, hein. Je ne savais pas par quel bout elle allait essayer de nous faire des trucs. Et le temps passant faisait que bah, ça se révélait systématiquement. Et donc, à la fin, quand ils rencontraient, enfin, c'était des formateurs, ils me les faisaient rencontrer. Je disais, là, oui, celui-là, on peut y aller, celui-là, non. J'avais même pas besoin de serrer la poigne aux gens et de discuter avec eux. Non, juste les voir, juste comme ça. Ça, oui. Ça, non. C'était indépendant de la profondeur du décolleté, de la beauté de la demoiselle, du sourire, ou du mec qui se la pétait grave. C'est fou, c'est bon, tu sais. Ah, c'est sûr que il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi j'étais pas directeur. Des ressources humaines, parce que franchement, j'avais vraiment les qualités. Bien, allez, une question de Bruno. Est-ce normal, et je l'espère transitoire, si oui, que je ne sache pas si ce que je ressens appartient à un égrégore dehors ou à une copine avec laquelle nous sommes pas mal reliés dans l'invisible, celle-ci me partageant ses difficultés? Ben là, on revient un tout petit peu à la même chose, hein. C'est que de toute façon, nous sommes tous un, c'est-à-dire que dans la totalité de chaque cellule, il y a la totalité de l'univers. Donc nous sommes capables de pouvoir rentrer en connexion avec n'importe qui, n'importe quel individu, n'importe quelle entité, et ceci, que ce soit dans le passé, dans le futur, puisque ça n'existe pas tout ça, mais une chose est claire, nous sommes tous une particule du sans-nom, et le sans-nom, à l'image de toutes les cellules de notre corps, il y a une information, quand une information arrive à une cellule, elle est instantanément dupliqué à la totalité des cellules. Donc, ce qui arrive à un individu ce qu'un individu ressent, la totalité des autres le sauront. Eh bien, comme on est bouché à l'émeri, on croit qu'on est maître de notre monde. À la réalité, nous n'avons absolument aucune maîtrise. Une question de Tara sur les chakras. Est-il possible que certains chakras s'ouvrent et vibrent en nous grâce à la présence active d'une personne à nos côtés ou c'est indépendant de cette présence? Les deux, votre honneur. C'est-à-dire que il peut y avoir, par exemple, quand tu n'es pas en présence d'une personne, il peut quand même y avoir des chakras qui vont se dilater, qui vont prendre une expansion, parce que tout simplement, tu es soit en contact avec une entité, soit en contact avec toi-même, tout simplement, et donc ça te dilate, et ça fait fonctionner encore mieux. Si par contre une personne est dans ton aura, eh bien ça peut aussi avoir la même influence s'il possède des fréquences qui sont en résonance avec toi. Donc il y en a un, ça va être, on va dire, un côté plus vibratoire féminin, on va dire, magnétique, alors que le deuxième, ça sera beaucoup plus mécanique. C'est-à-dire le fait que physiquement il soit là dans ta présence fait qu'il t'apporte des fréquences qui font que ça te fait du bien. Voilà. Parce que il peut y avoir, et ça c'est le principe même du SDH, c'est-à-dire que qui prouve que juste par la simple présence physique, même tu vas t'asseoir sur un banc public, ou à la gare, ou dans le train, à côté de quelqu'un, tu n'en as rien à foutre, tu t'assois, tu lis ton journal, ou enfin tu fais ce que tu veux, et bien la personne qui est à côté de toi va t'apporter des vibrations et des connexions que tu es totalement inconscient dans la majorité des cas, mais elles sont là. Et c'est pour ça qu'il est difficile, à certains moments, d'être dans la foule, parce que nous ne pouvons peut-être pas supporter certains types de vibrations. Parce que ça nous met face à nous-mêmes, déjà. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a l'aspect, effectivement, comme je disais, vibratoire lointain. C'est-à-dire que physiquement, il n'y a personne autour de toi, mais il y a quand même des choses qui se passent. Donc, c'est les deux. Énergie libre, une question de Daniel. As-tu des infos sur l'énergie libre, car il est difficile de s'en passer, pas pour des activités débilisantes, mais pour la survie, chauffage, si un certain chaos advenait. Alors, l'énergie libre est encore, on va dire, un drapeau, on va dire, pas illusoire, mais qui baigne quand même pas mal dans l'illusion. Et il y a de l'énergie, effectivement, libre, tout est libre autour de nous, je vous signale. Donc déjà dire l'énergie libre, ça veut dire celle qui n'est pas piquée par des industries pour vous faire banquer au final. Donc effectivement, elles sont libres, c'est-à-dire gratuites. Elles sont gratuites, mais il y a des conditions à remplir. Et donc ces énergies libres, une partie seront délivrées sur la planète, car tout dépend du niveau de fréquence de la planète. Et donc ce niveau de fréquence de la planète va dépendre forcément du niveau de fréquence de la conscience humaine. Donc il y a certaines technologies qui théoriquement apparaissent à fort à mesure de l'évolution d'une humanité. Et ce qui surprend, on va dire, nos copains galactiques et extragalactiques, c'est qu'ils disent l'homme est arrivé à un certain niveau de conscience, et pourtant ne possède pas cette technologie, qu'il l'affranchirait littéralement de tout ça. Et pour cause, parce que tout simplement, les aveuglements se sont dit, bah mes cocos, tous ceux qui ont capté la technologie qu'il fallait pour pouvoir utiliser de l'énergie libre, eh bien, ils vont nous faire chier, donc on va tout faire pour les étouffer. Alors bon, il y a la méthode directe, tu flingues le mec. Il y a la méthode indirecte, c'est que tu fais traîner son brevet longtemps, tu dis c'est incompatible, il y a des trucs, vous avez copié les trucs, les machins, etc., tu fais traîner le bins. Soit tu dis, le mec, il va falloir qu'il ait du pognon pour développer son système, alors on va tout faire pour qu'il en ait pas, donc on va lui envoyer quelques huissiers, on va lui envoyer des emmerdes, on va lui envoyer, tiens, on va lui faire rencontrer telle nana qui va le foutre en... Enfin bref, tout sera fait pour que le projet n'aboutisse pas. Et donc, jusqu'à maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, aucun projet pouvant utiliser des énergies, on va dire, non polluantes, hein, je ne voudrais pas dire libres, je dirais non polluantes, eh bien, ont été bloqués par les abonnements. Donc, c'est normal. Donc nous avons un grand retard à faire, mais ce grand retard ne sera pas préjudiciable, car autant tu peux dire voilà oui, mais bon, il va falloir quand même se chauffer parce qu'il fait froid, dis-toi bien que si tu montes en fréquence, tu vas découvrir que ton corps est capable de vivre avec une température à 10 degrés, mais à pas froid du tout, et pourquoi? Parce qu'il fonctionne parfaitement. Est-ce que vous voyez, des vaches et des chevaux et des moutons et tout ça, avec un système de chauffage et qui ont besoin d'énergie pour chauffer le cul? Pas du tout. Il n'y a que les humains qui en ont besoin. C'est quand même dingue. Je vous rappelle, on est dans un corps animal. Donc, c'est quand même dingue. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Donc, augmentons notre fréquence, et vous allez voir que progressivement, ce que vous voyez comme un problème, comme une nécessité, eh bien, ne le sera pas. Voilà. Et de toute façon, c'est simple, hein. Généralement, quand vous avez 20 ans, vous avez souvent moins froid que quand vous en avez 70. C'est-à-dire que plus on décline, plus la machine décline, et plus il faut chauffer, et même surchauffer. Donc, ce qui veut bien dire que c'est bien notre machine qui ne répond pas, on va dire, aux véritables besoins, parce qu'elle a été trop trafiquée. Donc, augmentez votre fréquence, et vous allez voir que la problématique de nourriture, la problématique du chauffage, vont disparaître progressivement. Pour ça, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec l'eau encodée et un certain nombre d'éléments rajouter à côté, on va dire, eh bien, vous allez progressivement manger de moins en moins et pratiquement plus. Pourquoi? Parce que vous aurez amené, enfin, des éléments, on va dire, comme ils disent nos amis, des briques fondamentales, qui vont permettre à votre corps de tout simplement refonctionner correctement. Donc, en développant votre corps, on va dire, tout simplement d'immortalité, eh bien, vous allez découvrir que vous n'avez rien de besoin de tout ça. Est-ce que les immortels, même dans un corps physique, ont besoin de se chauffer? Posez-vous la question. Et est-ce qu'ils ont besoin de bouffer 3 fois par jour? Posez-vous la question. Et vous verrez qu'ils bouffent quasiment rien, et que le chauffage, ils s'en foutent, comme dans l'enquête. Donc, ne projetons pas les problèmes que nous avons aujourd'hui pour demain. Il y a des choses qui vont vous surprendre, et c'est pour ça que quand l'événement va arriver d'une certaine manière, eh bien, il va y avoir des solutions qui vont se présenter, tout simplement, parce que si Papa Soleil, au moment où on tient, balance certaines formes, on va dire, d'informations et de fréquences, eh bien, nous n'aurons pas besoin de tout ça. Vous savez, la météo, c'est qui la fabrique? C'est nous. Alors ensuite, eh bien, c'est sûr que Papa Soleil et Maman Kayaya peuvent aussi faire de leur côté. Donc s'ils décident que ça descendra jamais en dessous de zéro, ça descendra jamais en dessous de zéro. N'oubliez pas ça. Tout ce qui est dehors est vivant. Et peuvent, bien sûr, aller dans votre sens, celui de l'évolution, celui de la paix. Parce que c'est notre bordel intérieur qui crée ce bordel extérieur. Bien, une question de Odile. Concernant ta dernière vidéo, est-il possible de déployer son dodécaèdre, d'y rester pendant un temps, d'être dans cet état de compassion débordante et d'amour infini, et revenir dans sa Merkaba 3D et de le faire de temps en temps, mais pas continuellement? Et si oui, pourquoi on n'y reste pas? Aussi, est-il possible de vivre une expérience furtive de déploiement de l'Icosaïne, où tout semble sans limite et sans fin, ni matière, ni part, partout et nulle part? Mais oui, nous développons. Rappelez-vous que nous ne développons pas, nous ne faisons pas, on fait la 3D, puis la 4D, puis la 5D, puis la 6D. En fait, c'est faux. Une fois que vous avez complété et équilibré, on va dire, votre dualité, c'est-à-dire votre Merkaba, enfin la classique, le double tétraèdre, une fois que vous avez dépassé ce stade, après le reste, tout se développe à une vitesse assez impressionnante. Donc, le dodécaèdre peut se déclencher, et de temps en temps, vous allez déclencher l'icosaïde, mais comme vous n'allez pas pouvoir tenir la fréquence, vous redescendez. C'est facile de ne pas tenir la fréquence. Il suffit de se mettre devant la télé et de regarder le journal de 20h, et vous allez descendre. Si vous étiez dans l'icosaïde, vous descendez tout de suite. Si vous êtes dans votre dodécaèdre et tout de suite vous avez, excusez-moi, la voisine ou le voisin qui vient pour vous demander un truc, enfin n'importe quoi, et qui commence à vous raconter simplement ses misères, c'est sûr que vous allez retomber en pleine Merkaba. Donc, c'est la, on va dire, votre capacité à maintenir votre fréquence qui va faire que vous allez pouvoir rester, on va dire, toujours dans l'état le plus élevé que vous pouvez. Je parle d'une moyenne. Vous savez, c'est comme les cours de la bourse, hein. Vous avez les schémas qui font vom, 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 mais il y a une moyenne. Et c'est la moyenne qu'il faut tenir. Donc, parce que même si vous êtes dans votre dodécaèdre, de temps en temps, ça ne vous empêchera pas, de temps en temps, on va dire, de piquer une gueulante ou d'avoir un coup de cafard. Puis de temps en temps, vous aurez un petit coup d'extase, on est d'accord, mais il y a aussi, Donc, mais en moyenne, eh bien, ne descendez pas votre fréquence. Et ça, c'était une des premières règles qu'on m'a dit il y a un an et demi de ça. Ne descends pas ta fréquence, ne te mets pas au niveau des autres. Même s'ils ont totalement tort, et que tu sais qu'ils ont tort, c'est pas pour dire que tu as raison, non. Parce que tu pourrais démonter tout ce qu'ils disent. Tu ne baisses pas ta fréquence. Ça a été la règle qu'on me martelait dans le crâne. Et c'est celle que vous devez vous mettre dans le crâne. Donc il n'y a pas à redescendre en 3D, c'est vous êtes dans votre fréquence. Et si vous avez déployé votre dodécaèdre et vous avez les pieds dedans, je vois pas l'utilité de dire je redescends dans ma Merkaba et j'oublie le dodécaèdre. C'est-à-dire, j'ai une Merkaba qui fonctionne parfaitement, et je vais la déséquilibrer pour vivre en 3D avec les autres. Non, ça joue pas, quoi. Quand vous avez un moteur qui tourne bien, vous allez pas dire, non, bon, je vais mettre un peu d'eau dans l'essence parce qu'il tourne trop bien, là. Ça joue pas, là. Hein. Ok. Je crois que j'ai répondu, Odile. Hein. Expérience de zénitude Uranus. Il me semble avoir vécu des moments de zen, d'être comme un petit enfant, la joie juste dans l'instant présent, à chaque instant, sans se poser la question du « après », dans une région propice à cela, sans surconsommation, juste la mer, les éléments. Je reconnais l'état que tu nous décris si bien avec tant de patience et de pédagogie que tu nous expliques parfaitement, mais je n'y reste pas dans cet état où notre vibration est haute, où le cœur vibre, où on respire à travers ce cœur. Ma question est, pourquoi certains parlent de basculement et ne quittent plus cet état de zen attitude, comme si la personnalité n'était plus ? Juste l'instant présent et l'observation du moment présent que décrit Eckhart Tolle, Betty la Grande Joie, Armel Six, Gérard l'Éveillé, Darpan, etc. Il semblerait que ces personnes ont basculé après bien des souffrances et que maintenant elles nous enseignent l'art de l'instant présent où plus rien d'autre ne compte, juste être dans son être-té. Pourquoi connaît-on cet état et que certains y restent et d'autres non? Est-ce que dans ces moments-là que la petite voix et la reliance à notre esprit directeur se fait? Est-ce que cela vient de l'environnement d'énergie lourde de banlieue de ville sans cesse dans l'agitation qui fait que nous ne puissions rester dans l'état décrit? C'est simple. C'est que plus on avance, et plus cette moyenne que je dis, elle augmente. Et donc, arrive un moment, quand tu es passé en 5D, et que tu es capable de tenir ta fréquence, quels que soient les trucs qu'il y a autour, tu t'en fous. Ça n'aura plus d'impact. Une fois que tu es sorti de l'eau, quoi qu'il se passe dans l'eau, tu t'en fous. T'as les pieds sur terre, ou t'es en train de voler comme un moineau. Les remous qu'il y a dans l'eau ne t'en font plus rien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, tant qu'on ne reste pas dans cette zénitude être-té, ça veut dire que tout simplement, on a encore les pieds dans l'eau. Et que s'il y a un oursin, ou s'il y a un crabe, ou quelque chose qui vient vous faire des guilis-guilis, c'est que vous avez encore les pieds dans l'eau. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de chemin encore à faire, et quand vous serez pied sur terre, et puis dans l'eau, vous en foutrez de comment les poissons, les crustacés sont en train de se bouffer. C'est pas votre problème. Vous savez, ça s'appelle l'écologie. Hein. Chacun joue à son niveau et tout est parfait. Donc, les choses qui sont décrites par Eckhart Tolle, etc., moi je sais que quand j'ai écrit Eckhart Tolle, c'était il y a 12, 13 ou 14 ans, c'était bon. Ah oui, c'était du temps des années 2000, voire avant. Donc, Eckhart Tolle, je lisais, je disais, mais ça je connais. Je dis, ouais, bon, ok, d'accord. Donc je ressentais bien, je savais bien que ce qu'il parlait, le gars, il l'avait vécu. Parce que je l'avais vécu, je dis, ok. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais, on va dire, pris son bouquin, dire, ouais, t'as vu, regarde, là, il faut vraiment que tu lises les cartes, il dit des choses vachement intéressantes. Je lui dis, c'est bien. Mais pour moi, c'était, d'une certaine manière, connu. Je ne vais pas dire banal, mais connu. Donc, je dis, ok, bon. Bon, la seule différence avec Eckhart, c'est que moi, j'écris pas les bouquins. Alors, une question de Bruno. Puisque la force électromagnétique est une des quatre forces sur la Terre, entre autres la gravitation, il me semble que ces ondes électromagnétiques ne se promènent jamais sans leur sœur, les ondes scalaires ou champs de torsion ou ondes stationnaires chères à Tesla. Les unes ont une force de pénétration dans la matière relative aux matériaux rencontrés et les autres, rien ne les arrête. Donc, au niveau de l'intrication dont tu parles dans ta dernière vidéo et dont les champs magnétiques et les composants de notre ADN, dont l'hérédité, le schéma corporel, la feuille de route, etc., ces ondes scalaires ne représentent-elles pas le pont nécessaire pour passer d'une dimension à une autre, de la 3D terrestre aux autres dimensions, alors que les ondes électromagnétiques, elles, seraient dédiées exclusivement à la Terre? Ce couple ondulatoire représentant l'aspect féminin pour les ondes électromagnétiques et l'aspect électrique pour les ondes scalaires. Non. Toujours du côté électrique de la force, l'autre jour, alors que je me disais à moi-même que j'allais péter un câble, si ça continuait, deux lampes ont grillé, et in fine, en branchant un appareil électrique à une rallonge, les plans ont sauté. Est-ce possible que mon champ électrique perturbé ait pu perturber le réseau EDF? Est-ce cela également qui perturbe le climat lorsque nos pensées électriques sont perturbées? Bon, alors, Bruno, on va y aller simplement. Il existe, découvert pour l'instant, on va dire, quatre forces. Les quatre forces fondamentales. Donc, il y a effectivement la force forte, la force faible, l'électroforte, l'électrofaible, enfin un truc comme ça, bref. Et le truc, c'est qu'il y en a six au total. Alors, le problème, c'est qu'il y en a deux qu'ils n'ont jamais trouvé, et parce quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument, pour l'instant, aucune capacité de pouvoir le mesurer. Et les ondes scalaires, elles le mesurent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de fondamental, et on va même aller plus loin. Donc les deux forces, c'est pour ça que dans la théorie de la réunification des forces, ils ne peuvent pas toujours chercher. C'est comme si quelqu'un dit, voilà, j'ai une roue de vélo, j'ai des rayons, j'ai un moyeu, et j'ai le roue de la bicyclette, et j'ai le pneu. Et tu leur dis, c'est vachement bien, les copains, hein, vous avez le pneu, on va dire, il y a le pneu et la chambre à air. Et c'est bien, vous avez trouvé la chambre à air, vous avez trouvé les rayons, vous avez une idée quand même du moyeu, mais vous n'avez pas trouvé la jante, et vous n'avez pas trouvé le pneu. Alors, on a du mal à réunifier là, quand il manque quand même deux morceaux, hein, un morceau sur trois quand même, ça fait quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça que les scientifiques actuellement sont, on va dire, à côté de la plaque. Ça c'est déjà la première chose. Les ondes scalaires, c'est autre chose que ce n'est pas une force fondamentale. Ce n'est pas une force fondamentale. C'est tout simplement une, on va dire, une forme d'onde, on va dire déphasée. C'est-à-dire que pour qu'une onde scalaire soit générée, il faut deux émetteurs. Dans l'électromagnétisme, tu as un émetteur, un récepteur terminé. Là, il faut deux émetteurs et un récepteur. Donc, tu veux faire exploser le récepteur. Il te faut deux émetteurs. Parce que si tu n'envoies qu'à partir d'un seul émetteur, ton récepteur n'éclatera jamais. Sauf si tu es sur la fréquence, comme le verre, hein, vous savez, vous le faites péter parce que vous êtes juste sur sa fréquence. Et si vous voulez faire péter quelque chose qui a des fréquences très complexes, comme un être humain, eh bien, il va falloir utiliser deux émetteurs. Et vous mettez deux émetteurs, comme dans un triangle. Et ces deux émetteurs vont envoyer les mêmes ondes, mais déphasées. Ça s'appelle les ondes scalaires. Et donc, quand vous déphasez les ondes, à ce moment-là, le récepteur se retrouve dans un phénomène de cisaillement, on va dire, au niveau de ces ondes. Et en fait, il, littéralement, il crève. Donc, les ondes scalaires ont été utilisées déjà en Irak et ailleurs, Afghanistan et compagnie, c'est-à-dire que à partir d'un hélicoptère ou d'un deuxième, vous envoyez les ondes et tout ce qui se trouve en récepteur, c'est-à-dire la zone qui est balayée, les gens tombent sur le côté, raide mort. La seule chose, c'est que c'est relativement très rapide et qu'il ne se décompose pas. C'est-à-dire que toute forme de vie qui est en lui a été ôtée. Le corps devient résistant pour l'éternité. Donc, beaucoup ont été mis dans les fosses, mais ils ne pourriront jamais. Donc, les forces scalaires est une arme due sur un phénomène physique, mais ce n'est pas une force fondamentale. Ok. Donc, quand ils disent champ de torsion, t'imagines ce que ça veut dire une torsion. Les ondes stationnaires, c'est encore autre chose. Et une onde stationnaire, c'est une onde qui est en harmonie. Elle est stationnaire seulement, elle ne bouge pas. Entre guillemets. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Et donc, effectivement, tu émets à un certain niveau, au niveau de ton champ électromagnétique, quelque chose, eh bien, il est évident qu'il y a des lampes qui peuvent avoir des hauts et des bas. Donc, moi, je sais que ça m'arrive régulièrement, et c'est surtout sur des lampes à UV, à filament. Toutes les lampes à filament, j'ai deux endroits différents chaque fois que j'allume, j'ai qu'à bouger et je vais voir les variations d'intensité dans la lampe. Je me dis, ok, très bien. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué que selon mon état d'étreté, les variations sont plus ou moins rapides, importantes et en intensité. Donc nous avons effectivement une interaction avec les champs électromagnétiques et il est évident que les lampes à filaments, les fluos, ça j'ai pas pour l'instant encore pu vérifier la chose. Et donc, tout ce qui touche la perturbation du climat, nos pensées, ben forcément, c'est nous qui créons principalement le climat. Okay. Une question sur les involuants d'Uranus. Concernant le dernier dialogue 36 de Sand et Genael, dialogue avec l'ange, qui semblerait parler aussi de ce que tu parles, as-tu lu leur dernier dialogue? Est-ce que cela rejoint ce que tu nous expliques sur les involuants? Oui. J'ai lu leur dialogue, effectivement, parce que Sand et Genael ne publient pas beaucoup, mais ce qu'ils publient est d'une très grande qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des informations très pertinentes. Hein, bon, à vous de voir par votre discernement, mais j'avouerai que personnellement, c'est un véritable plaisir de les lire, et cela me permet de pouvoir, on va dire, recouper beaucoup d'informations par rapport à d'autres sources que j'ai, hein, par rapport à l'invisible principalement. Alors, je n'utilise pas les mêmes mots qu'eux, hein, je ne désigne pas par des étiquettes un tel ou un tel, mais globalement, ils sont, je vous avouerai, dans une pureté informationnelle assez rare, on va dire. Je voudrais pas leur faire de la pub, mais je peux vous dire que moi, il y a des gens qui des canaux en qui j'ai une très très grande confiance parce que je sais que ce sont des sources sûres, dans le sens que mon discernement les a mis rarement en défaut, voire jamais. Donc il y en a plusieurs comme ça. Il y a Rona Hernan qui canalise Michael, qui est d'une fiabilité exceptionnelle. Il y a par exemple James Tibron qui canalise Metatron, qui là aussi est d'une fiabilité exceptionnelle. Il y a Sand et Genael qui, je pense, plus ils avancent dans leur dialogue et plus vraiment c'est du pain béni. Alors bien sûr, je recoupe avec d'autres informations qui me sont données par nos guides et par d'autres canalisations, et ce qui me fait comprendre beaucoup d'autres choses. Et ils sont une pierre, donc ça veut dire que Sand et Genael font partie de mes lectures régulières. Maintenant, c'est automatique. Et puis, comme ils publient une fois par mois, ça ne prend pas trop de temps, mais c'est quasi pour moi maintenant, c'est devenu un passage. Et souvent, ça confirme je dirais, les mêmes énergies, intentions qu'ils ont reçues. Parce que nous aussi, on reçoit de l'invisible. Et je parle de certains sujets, et paf, dans leur dialogue qu'ils publient après, ils en parlent. Et donc, on est en phase. Alors, on est en phase par rapport à ce qui est à l'extérieur, hein, c'est-à-dire aux informations qui nous sont balancées. On est branché sur le même truc. Donc c'est agréable de voir des personnes qui sont sur le chemin et qui ont réussi à regarder les choses en face. De manière, hein. Je ne les ai jamais rencontrés, ça sera peut-être jamais, j'en sais rien, mais une chose est claire, c'est j'apprécie, on va dire, les liens. Alors, maintenant nous allons voir Pépé des Îles. Dans la dernière webconf du 25 janvier, tu as dit que quand tu te dis quelque chose plusieurs fois avec une certaine énergie, pendant 3, 7, 21 ou 40 jours, cette information sera gravée et ne sera pas remise en cause. Puis tu as parlé des différentes pratiques pour se brûler les ailes comme l'auto-hypnose, comme quoi si c'est pour écrire ou modifier des choses, là c'est un problème. Se dire quelque chose avec une énergie plusieurs fois par jour et faire de l'auto-hypnose pour écrire ou modifier quelque chose ne reviendrait-il pas au même à se cramer les ailes? Ça dépendrait de quoi il est question d'écrire ou modifier. Quand tu dis se cramer les ailes, peux-tu donner des exemples? En cherchant à modifier ou à écrire quoi que ce soit, on peut les brûler. Exemple, si on est timide et on fait différentes méthodes pour devenir extravagant, si on est stressé, si on veut devenir zen, si on a mal au cou, et si on veut se guérir, et si on veut voler, marcher sur l'eau, demander d'atteindre l'état christique, qu'est-ce qui est bien de ce qui ne l'est pas? Bon, alors je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore toute une grosse couche derrière. Bon, commençons les choses simplement. Si tu es au gouverne, on va dire, de ta personnalité de 3D, qui dit, ça serait bien ça, tu sais, ça serait bien que tu fasses ça, et puis il y a un tel qui a dit ça. Et puis tu sais, celui qui est mort il y a 300 ans, il a aussi dit ça. Et puis bah tu sais, à la télé, ils ont fait une pub qui dit ça. Alors si tu te bases sur tout ça, pour pouvoir, on va dire, trouver quelle est la meilleure méthode, le meilleur moyen pour avancer, là tu vas te griller les ailes. Parce que toute cette information est trafiquée. Toute cette information, aussi vraie puisse-t-elle paraître, possède généralement une grande quantité de désinformation. Donc là, t'es mal barré. Par contre, si t'es en contact avec un être de lumière, et que t'as plusieurs guides, et là te dit, écoute, si tu veux améliorer ta vue, tu fais ça, ça et ça. Je ne parle pas d'un humain qui t'a dit ça. Je te parle d'un être de l'invisible, avec qui tu es en contact depuis belle durée, et que tu sais que ce qu'il dit, ça tient bien la route. Tu fais quoi, là? Et donc, Pépé des Îles, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'origine de ta demande à faire quelque chose qui va influencer les résultats. Donc, quand l'origine se fait par le mental ego, par la personnalité de 3D, tu as de fortes chances d'avoir de gros soucis. Si par contre, un jour, un de mes guides me dit, écoute, là, vu la problématique que tu me soumets et vu le blocage auquel tu es soumis, il faudrait passer par l'auto-hypnose pour arriver à le débloquer. Moi, je claquerais des talons. Et j'irai faire le truc d'auto-hypnose demandé. Et s'il faut que je passe par une autre personne, je passerai par une autre personne. Mais je m'arrêterai uniquement à ça et j'irai pas plus loin. Donc aujourd'hui, nous avons dans notre croissance un certain nombre, on va dire, de soucis qui sont dus généralement à la réorganisation, on va dire, de notre corps afin de pouvoir monter en puissance. Eh ben, on nous demande de faire des choses. On nous dit, voilà, faut faire ça, et tu vas faire ça pendant 21 jours d'affilée. Bon, ok. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pas moi qui ai dit, ouais, tiens, cette méthode me semble bien, il faudra que j'essaye. Pas du tout. De ce côté-là, je suis d'une prudence totale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la méthode en elle-même qui est gênante, c'est qui en est le donneur d'ordre. Donc, quand on me dit il faut boire, enfin, si tu veux avancer, l'eau osmosée, c'est mieux que l'eau du robinet, je vais regarder pour acheter un osmoseur. Si on me dit, tu sais, là, si le truc était ionisé, ça va te permettre de faire ça, ça, ça et ça, parce que voilà, je vais t'expliquer le fonctionnement. Tu dis, ouais, d'accord, j'ai compris. C'est ça la différence. Les guides sont là pour nous guider, c'est pas nos maîtres. On n'a pas à exécuter ce qu'ils nous demandent. Mais si on pose des questions, on se dit, mais oui, j'ai tel problème, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai tel problème, pourquoi? On va dire, ben ça c'est les énergies, c'est dû à la lune, ou c'est dû à ceci. Bon, d'accord, très bien. Et là, c'est dû à quoi? Ah, ça c'est un programme involant. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, la nécessité d'avoir des guides. C'est, tu poses des questions, ils te répondent, et après, en tant que joueur, tu décides. Tu dis, ok, j'y vais, je tente. Et puis, des fois, tu diras, pour l'instant, non, je suis pas prêt encore, tu vois. Donc, quand on m'a dit, tu sais, pour te faire repousser une dent, il est quand même préférable qu'on te l'arrache avant, quoi. Et puis après, tu fais ceci, tu fais cela. Je dis bien, mais là pour l'instant, je me sens pas prêt de faire ça encore. Je me sens pas encore, parce que si pour toi ça te semble simple de faire cette chose-là, moi je sais que ça va me prendre un certain temps et que je vais peut-être pas avoir la foi que tu penses qu'il faudrait que j'aie. Et là, on va attendre. Donc, je ne suis pas un béni oui-oui, je ne dis pas oui systématiquement à tous les trucs qu'on pourrait me conseiller, mais si on me conseille ça, c'est parce que j'ai posé la question. Parce que si j'avais pas posé la question, ils te diront pas, parce que sinon c'est enfreindre les lois. Donc, ils te diront pas. Aucun guide ne te dira « tu dois faire ceci, tu dois faire ceci », aucun. Si par contre tu poses la question, et tu dis, et voilà, à ce moment-là, ils te répondront. Et après, c'est à toi de décider si tu vas le mettre en œuvre ou pas. Voilà la différence. Alors, continuons. Dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour de Jacques Martel, il y a une technique qui s'appelle les bons hommes allumés, qui consiste à harmoniser différentes choses en toi. On va prendre l'exemple du masculin et féminin en toi, en te dessinant sur une feuille de papier une première fois dans un cercle de lumière avec la définition masculin, avec ton nom. Bon, écoute, là, je vais pas tout dire, parce que là, voilà, c'est un. Bon, alors, c'est des méthodes, ok, très bien. Là, c'est à chacun de suivre. Donc, si tu as demandé à ta petite voix, est-ce que cet exercice est bon pour moi? Et qu'elle te répond oui, alors fais-le. Si tu n'arrives pas à causer avec ta petite voix, eh bien à ce moment-là, tu demandes à ton esprit cristal. Hein. Si tu as un guide, ben, tu peux lui poser la question aussi. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont sur le début du chemin ont été obligés, dans la majorité des cas, de s'imposer certaines méthodes parce qu'ils pensaient que c'était bien. Ils disaient, oui, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça, puis c'est une mode, donc ça doit marcher, puis ceci, puis cela, ok, d'accord. Mais généralement, on appelle ça le discernement, c'est-à-dire, est-on capable de ressentir si c'est en accord avec nous, si ça résonne avec nous. Si ça résonne, on y va, si ça résonne pas, merci, au revoir. Quand je dis raisonner, c'est R-E, c'est pas la raison. C'est la résonance. Donc moi, c'est simple, c'est dans ma vie, j'ai toujours pratiquement suivi comme ça. S'il n'y a pas de résonance dans la chose avec moi, je laisse tomber. Aussi intellectuellement parlant, ça peut être extraordinaire. Je laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu dire ouais, mais non, on va essayer, je me suis planté misérablement. Donc, donc il y a des gens qui peuvent écrire des méthodes extraordinaires, mais il se peut que pour moi ça ne sert à rien, donc voilà. Et pour d'autres, ça va être le nirvana. Et donc, c'est bien à chacun de voir qu'est-ce qui est bon pour lui, mais bon dans le sens que sa petite voix, que ça résonne, qu'il y ait une résonance avec véritablement quelque chose. Bien. Alors, voilà. Bon, on va aborder les dernières questions. Parce que voilà. Donc, une question de Daniel. Je pense qu'une des raisons de la stagnation de l'humanité est le décalage entre l'action et sa conséquence, et cela éventuellement d'une vie à l'autre, par le karma créé par le cycle victime-coupable. Si l'homme voyait les conséquences, il prendrait certainement la pleine responsabilité de ses actes, souvent visibles et dans la matière, mais trop décalés dans le temps, mais aussi de ses paroles parfois destructrices et surtout ses pensées dont la puissance et les conséquences sont ignorées par la plupart de nos sœurs et frères. L'accélération du temps que nous subissons est-elle une aide pour que chacun puisse prendre les responsabilités de ses pensées, paroles, actions, en révélant le lien entre ce qui arrive et ce qui a été fait, dit pensé et a fortiori en gros? Alors je réponds oui. C'est-à-dire que cette augmentation du temps est là pour que nous puissions prendre conscience le plus rapidement possible des conneries qu'on sort, qu'on vit, qu'on pense. Quand je dis des conneries, c'est-à-dire que de voir la responsabilité de nos actes à ce niveau-là, enfin de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Et effectivement, c'est pour ça qu'il va y avoir un espèce de chaos qui va s'instaurer de plus en plus fort, parce que plus un individu va être en déséquilibre, et plus il va être déséquilibré. Et plus un individu va se centrer, et plus il sera centré. C'est-à-dire que les énergies d'aujourd'hui sont un accélérateur. C'est neutre. Après, c'est l'individu qui ira dans un sens ou dans un autre. S'il va dans le sens involutif, ça va être le puits infernal. S'il va dans le sens évolutif, eh bien, il va pouvoir progresser beaucoup plus vite. C'est comme ça que va se faire tout simplement le tri dans l'humanité. C'est un accélérateur. Voilà, donc effectivement. Question de Tara. Pourquoi, en passant d'une dimension à l'autre, on voit comme si on regarde par le trou d'une serrure? L'image commence toute petite dans un tunnel et après la scène s'ouvre au fur et à mesure qu'on traverse cette réalité. Ben, c'est simple, c'est comme ça que tu le vois, Tara. Moi, je regarde pas, j'ai jamais vu de serrure, j'ai jamais regardé dans le trou de la serrure. Mais pour toi, ben, c'est une façon que va prendre, on va dire, ton mental, ta psyché, tout ce que tu veux, pour te montrer que tu es en train de changer de dimension. Mais c'est une image qui t'appartient et voilà. Une question de Chris 69. Quand on arrive à changer ses croyances et donc sa réalité, cela se produit jusqu'à quel degré? Comme dans la série Sliders. Alors bon, Sliders, jamais vu, donc je comprends le mot en anglais, mais sans plus. Où on bascule totalement vers un monde parallèle qui est en même temps, mais différent, avec un autre soi que l'on intègre et donc notre entourage ne voit pas de nouveautés, car c'est aussi un nouvel entourage, et où au contraire, on ne change pas, on ne change que sa sphère personnelle, et l'entourage voit une étrangeté, voire des miracles nous concernant. Bah écoute, je vois à peu près de quoi tu parles, et une chose est claire, c'est que pour l'instant, notre mental est incapable de voir la vraie vérité en face. C'est-à-dire qu'il n'a pas été conçu pour prendre conscience du véritable mécanisme des choses. Donc nous approchons, d'une certaine manière, ces mécanismes, mais nous ne pourrons pas les comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut passer par l'étroité. Parce que l'étroité, il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a zéro analyse. Et donc une fois qu'on est suffisamment dans l'étroité, on se laisse porter par l'étroité, et on n'a plus les problèmes du mental. Je rappelle que le mental, c'est la 3D. Hein, c'est un outil qui est là pour nous aider à gérer un environnement et notre corps. Mais dans la réalité, dès qu'on pense dans les autres dimensions, ce mental va être de plus en plus déconnecté. Et arrivé à un moment, il va simplement faire le minima syndical. Et pour les gens qui expérimentent aujourd'hui les nouvelles énergies d'une manière consciente, eh bien ils se rendent compte qu'ils ont juste à laisser faire et à être. Et comme ils laissent faire, et qu'ils sont, eh bien, à ce moment-là, ils n'ont plus de problèmes, ils n'ont plus d'anxiété, ils n'ont plus de... ils se prennent plus chaud, quoi. Donc, ce qui veut dire que bah, le mental est calme. Comme il est calme, eh bien, la machine émotionnelle est calme, et donc, les pensées, bah, il n'y en a presque plus. Voilà. Et puis, bah, quand on en a eu, eh bien, on voit les résultats concrets que ça donne très rapidement. Donc, concernant les croyances, Il n'y a pas de limite. Il n'y a absolument aucune limite. Dernière question de Sylvie sur mon papier. J'ai cru comprendre dans les explications qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà ascensionné, qui se sont réincarnées sur la Terre. Comment savoir si moi, mon conjoint ou mon voisin font partie de ces personnes? Est-il possible de le savoir? La réponse est non. Parce que ceci, c'est le mental ego qui veut savoir. Et tout est fait pour que cela ne se sache pas. Alors, il y a bien sûr, toujours pareil, des possibilités de savoir. Et pour cela, eh bien, il suffit de regarder comment la personne progresse, à quelle vitesse elle monte en fréquence, comment elle a réagi aux choses. Et tu verras que spontanément, des gens, un voisin banal, qui paye bonne mine, tu dis bonjour, c'est juste par politesse, eh bien, les énergies vont monter. Un jour, tu seras dans la merde, il n'y aura plus de jus, le compteur électrique aura sauté, enfin, tu ne sauras plus. T'es toute seule et tu dis, bah tiens, je vais aller demander au voisin parce que là, j'ai un problème, là, sérieux, et je peux pas attendre. Tu vas voir le voisin et tu lui dis, écoutez, toc, monsieur, là, j'ai un problème électrique, tout a sauté dans la maison, je suis vraiment fortement ennuyé, est-ce que vous pourriez m'aider? Et là, la personne vient, rentre chez toi, et tu découvres que derrière ce mec qui payait point de mine, un peu gras du bide, démarche nonchalante, tu vas voir qu'il va mettre tout de suite la main au bon endroit, tout de suite, il va dire, il y a ça, ok. Tu vas sentir qu'il dégage quelque chose, c'est bizarre. Et puis, il voit un crâne, il voit ton crâne là sur le bord de la table, quelque part, et il dit, Ah, tiens, il vient de me dire ça. Tu vas le regarder, tu vas dire, attends, d'où il débarque celui-là, là? Je le croyais papier gras, devant toujours la télévision, ses frites et sa pizza, toujours devant le match de foot. Et en fait, pour lui, tout ça, c'est banal. Et puis, tu vas le remercier, tu rentres chez lui, et là, tu te rends compte que il a 30 ans d'avance sur toi, quoi. Donc, il y a de fortes chances que ce genre de personnage qui paye pas de mine, qui est humble, qui est vraiment, en fait, c'est déjà quelqu'un qui a été un maître ascensionné. Il fait son taf, il fait son truc, il fait pas de bruit, pas de remous, parce qu'il a pas envie d'être emmerdé, il a envie d'être dans son univers, il vit son univers, et dès qu'il franchit le pas de la porte pour aller soit bosser ou à l'extérieur ou quoi que ce soit, il fait pas de bruit, il est dans l'humilité totale, il est dans son être-té, il paye pas de mine. Alors, je vois une question de Dolly et toi, Laurent, tu es revenu pour nous aider. Je vous laisse. Je vais être gentil de ce côté-là. D'après vous, est-ce que vous pensez que tout ce que je vous raconte dans cette vie, je l'ai appris dans cette vie? Je n'ai fait que me reconnecter à des parties de moi-même qui ont déjà vécu un certain nombre de choses. Sinon, comment pourrais-je vous parler tranquillement et surtout apparemment en bon pédagogue. Comment voulez-vous? C'est parce que j'ai dû enseigner pas mal de fois, dans pas mal de vies. Et donc je sais comment parler, comment prendre des images, comment expliquer simplement, comment... Parce que, il y a de la pratique. C'est comme un musicien avec un instrument. Moi, autant je suis nul avec un instrument de musique, autant quand il faut expliquer, enseigner, faire comprendre, ça je sais faire. Donc, ce qui veut dire que j'ai pratiqué pendant plein de vies cette capacité d'enseignement aux autres. Par contre, j'ai pas dû passer beaucoup de temps à gratter une guitare ou à jouer du piano. Ça, je peux vous le garantir. À moins qu'on m'ait caché ce côté-là, mais ça serait quand même un peu sorti quand même avec le temps. Voilà. Merci pour tout. Tu fais pas ton âge karmique. écoutez, c'est ainsi, mais on verra avec le temps. Sachez simplement, c'est que nous faisons tous partie du même organisme qui s'appelle l'humanité et que nous avons tous nos spécialités. La cellule du foie s'est spécialisée dans le traitement chimique, la cellule des reins dans le filtrage. Nous sommes tous une cellule, simplement, nous avons des fonctions, et moi j'en ai une, c'est celle de transmettre et d'expliquer pour donner un sens à ce que l'on vit. Voilà. Mais je suis pas là pour faire le spectacle avec une guitare et chanter devant le public. Je suis pas là pour prendre un pinceau et faire des beaux dessins, ou faire de la poterie, ou du jardinage. Voilà. Et donc, je suis supérieur en rien, je fais simplement ce que je sais faire, et que j'ai appris à faire au fil de mes différentes réincarnations. Voilà. Bien, je vous laisse là-dessus, et je vous dis donc à une prochaine webconférence. Merci, au revoir.